Bonjour à tous, je suis heureux d'accueillir pour cette séance sur la confiance Louis Quéré, qui est directeur de recherche au CNRS et qui a dirigé pendant de nombreuses années le centre d'études des mouvements sociaux à l'école des hautes études en sciences sociales. Si j'ai invité Louis Quéré aujourd'hui, c'est parce qu'il fait partie des rares chercheurs français à s'être intéressé en tant que sociologue, il y a aussi, il est vrai, quelques historiens ou quelques théoriciens politiques qui l'ont fait, à s'intéresser à la question de la confiance. Dès 2001, il avait publié un numéro spécial de la revue Réseau consacré à cette question, et tout récemment, il y a 2 ans, il a publié un ouvrage collectif avec son collègue de l'École des hautes études, Albert Augien, qui s'appelle « Les moments de la confiance, connaissance, affect et engagement ». Ouvrage dans lequel, outre les quelques chercheurs français comme Lucien Carpic ou comme Pierre Livet qui se sont intéressés à ces questions-là, ils ont reproduit des textes de quelques-uns des sociologues qui ont marqué les esprits sur ces questions-là, sociologues comme Luhmann ou des théoriciens politiques comme Hardine. Dans la discussion, nous aborderons cette question de savoir pourquoi cette question de la confiance est devenue un thème central, à la fois en sociologie et en théorie politique. On peut dire que dans les années 1980, c'est essentiellement aux États-Unis, notamment sous l'impulsion de la Sage Foundation, que des gens comme Russell Hardin se sont mis à travailler sur cette question et à constituer des groupes de chercheurs, des groupes de réflexion consacrés à ce sujet. Mais maintenant, on est à un moment un petit peu tournant, parce qu'on peut dire qu'il y a eu une montée en puissance de cette question de la confiance, et puis le constat qu'on ne peut pas se contenter, je dirais, d'une approche un peu trop vague et un peu trop générale, ce qui a souvent été le cas jusqu'à maintenant. Donc le moment où intervient Louis Quéré, c'est, si je puis dire, la deuxième étape du travail sur la confiance, après une première étape qui était celle d'abord de la prise en considération des travaux les plus pionniers de sociologues comme Simmel, par exemple, il y a eu cette deuxième étape qui s'est ouverte, disons, au milieu des années 80 et dans les années 90, parfois même avec l'écriture d'ouvrages best-sellers, je pense au livre de Roger Perfit, La société de confiance, qui est de 1995, et tout un investissement intellectuel. Et maintenant, nous verrons pourquoi avec Louis Quéré, à l'aube, je dirais, d'un deuxième souffle du travail, d'une deuxième étape de la réflexion sur la confiance. Et il me semble tout à fait représentatif de ceux qui ont commencé à s'engager dans cette deuxième étape, et c'est pour ça que je suis heureux de l'avoir invité aujourd'hui, en le remerciant d'avoir accepté cette invitation. Et donc, je lui donne la parole tout de suite.
Je vous remercie à mon tour de m'avoir invité à donner cet aperçu sur les recherches actuelles sur la confiance, qui se sont effectivement multipliées à un rythme incroyable depuis une trentaine d'années, non seulement en sciences sociales d'ailleurs, et dans des secteurs où on ne l'attendait pas tellement, dont entre autres l'économie, les sciences de la gestion, les sciences de l'organisation, mais même aujourd'hui en neurosciences, le thème de la confiance devient un thème d'expérimentation, et actuellement aussi il y a un regain du thème de la recherche sur le thème en philosophie, notamment en philosophie morale et en théorie de la connaissance, autour de ce qu'on appelle l'épistémologie sociale, qui part simplement du constat que la plus grande partie de ce que nous savons, de ce que nous l'apprenons d'autrui, et nous l'apprenons d'autrui en lui faisant confiance, parce que nous ne pouvons pas, pour la plus grande partie de ce que nous apprenons, le vérifier par nous-mêmes. Alors, cet état des lieux, je vais pas le présenter, bien sûr, de façon exhaustive. Je vais le faire aussi en portant des évaluations et en corrigeant, voilà, en cherchant à corriger ce qui me paraît être des erreurs dans la conception de la confiance qui a prédominé dans beaucoup de ces recherches. Alors, Je vous présente, pour commencer, en résumé, mon argument. Le problème essentiel vient sans doute du fait que derrière le phénomène de terme confiance, il y a des phénomènes très différents. Il y a des formes différentes de la confiance et il y a des phénomènes qui sont proches de la confiance, mais qui ne sont plus la confiance. Et ce qu'on constate, c'est que les recherches actuelles ne font pas suffisamment l'effort de clarifier ce qu'elles mettent derrière ce terme de confiance. Une des manières de s'en apercevoir, c'est tout simplement de penser au verbe dont le substantif confiance, ou plutôt auquel le substantif confiance réfère. Je pense par exemple à des verbes, j'ai tenté une liste, confier à, s'en remettre à, s'abandonner à, se reposer sur, avoir foi en, croire en, être sûr de, mettre foi dans, faire crédit à, placer sa confiance en, engager sa confiance, ou alors avoir la confiance de, jouer d'un crédit auprès d'eux, inspirer confiance, éveiller la confiance chez, se fier à, compter sur, faire fond sur, escompter. Voilà. Donc, et alors, quand on fait cette liste de verbes, on s'aperçoit effectivement qu'il y a bien des phénomènes assez, très proches les uns des autres, mais en même temps différents. Donc il importe de commencer par distinguer ces phénomènes. Alors, peut-être une ou deux remarques sur ces verbes que je viens d'énumérer. Il y a une première caractéristique, c'est qu'ils constituent ce qu'on appelle des concepts épais. Voilà, c'est une expression de philosophie, mais c'est l'idée que ces concepts ne sont pas purement descriptifs, mais qu'ils comportent une part d'évaluation. Effectivement, les mots confiance, se fier à, s'en remettre à, sont chargés d'une valeur positive, alors que des verbes tels que se méfier de, se défier, suspecter, soupçonner, sont des verbes qui ont une connotation négative. Et je pense que ce phénomène renvoie au fait que dans le type de culture, le type de société dans lequel nous sommes, la confiance est un phénomène qui est affecté de valeur. Et une deuxième remarque serait pour dire qu'il faut faire attention, disons, au type de complément de sujet qu'on attribue à chacun de ces verbes. Autant on peut dire qu'on peut faire confiance à une personne ou à quelqu'un comme nous, autant ça devient difficile de le dire au sujet d'un objet, d'un ordinateur, d'un animal, ou même d'une partie de notre organisme. Faire confiance à sa mémoire, faire confiance à son cerveau, sont déjà des expressions un peu problématiques. Et à ce moment-là, effectivement, il vaut mieux chercher le verbe qui correspond le mieux à ces termes-là. Et donc, le fait, par exemple, de se fier à sa mémoire, de dire cela ne pose aucun problème. Ce qui est différent de dire que je fais confiance à ma mémoire. Donc le premier point, c'est de souligner donc cette diversité de phénomènes. Deuxième point, c'est de souligner que beaucoup de recherches actuelles portent plus sur la fiabilité, sur la crédibilité que sur la confiance elle-même, sur le fait de pouvoir juger pourquoi une personne est digne de confiance ou pas, de pouvoir juger si elle va honorer ma confiance ou pas. Il me semble que c'est un phénomène différent de celui de la confiance proprement dit, et je vais y revenir. Troisième constat que je fais, c'est qu'une partie importante des recherches actuelles tend à définir la confiance comme une forme de connaissance, que ce soit une forme de savoir, une croyance ou un jugement portant sur une autre personne. Donc là aussi, je vais revenir là-dessus. Et donc, une des conséquences qui en résulte, c'est que pour ce genre d'approche, on ne peut parler de confiance en dehors des relations personnelles, ou en dehors des relations interpersonnelles, et que des expressions que nous utilisons couramment, telles que avoir confiance dans une institution, par exemple, deviennent des choses très problématiques. Et donc, pour cette recherche-là, à la limite, on ne peut plus parler de choses telles que la confiance dans les institutions. Alors, pour critiquer, pour corriger ce qui me semble être des erreurs dans ce genre d'approche de la confiance qui prédomine aussi bien en économie, en sciences de la gestion que, pour une part, en sciences et en théorie politique, je vais essayer de montrer comment il n'y a pas dans la confiance que ce moment purement cognitif. Il y a bien du savoir, il y a bien de la connaissance, mais ce moment n'est pas le seul. Et, disons, de la compréhension de la place de ce moment dépend beaucoup, disons, l'analyse que nous pouvons faire de la confiance en tant que phénomène rationnel. C'est un des enjeux des discussions actuelles, c'est comment traiter, disons, ce qu'on peut appeler la rationalité de la confiance. Est-ce que c'est une rationalité standard, si on veut, ou est-ce que c'est une rationalité spécifique ? Et, bon, pour ma part, je me rallie à ceux qui pensent que c'est une rationalité spécifique, que la confiance correspond à un geste spécifique qu'il faut bien cerner, bien identifier. Et il me semble qu'on trouve dans la sociologie classique, je pense notamment à Simmel, Georges Simmel, donc, qui écrivait ses textes sur la confiance il y a plus d'un siècle, puisque Philosophie de l'argent, c'était en 1900, son livre Sociologie, c'est en 1908. Donc, dans ces deux textes, il y a déjà l'esquisse d'une approche de la confiance qui, à mes yeux, n'a pas été beaucoup dépassée jusqu'à présent. Elle a été complétée par d'autres approches que je vais évoquer. Et par ailleurs, donc, je pense qu'il y a aussi des outils importants dans la philosophie morale actuelle, dans certains secteurs de la philosophie morale actuelle. Et donc, du coup, effectivement, si on refait ce parcours, on va trouver un certain nombre d'indications pour répondre à la question... la confiance peut-elle exister au-delà des relations interpersonnelles et est-ce que ça a un sens de parler de confiance dans les institutions ? Alors, voici mon plan. Le plan de l'exposé. Donc, je vais présenter mon argument en 4 points. Je vais partir de la question des sondages, des sondages sur la confiance, que vous connaissez tous. La question étant de savoir qu'est-ce qui nous apprennent sur la confiance. Et donc là, il y a des réponses très négatives, et je vais adopter un point de vue plus positif en disant que les sondages mesurent bien quelque chose et mesurent. Elle ne mesure pas la confiance, elle mesure autre chose que la confiance, elle mesure ce qu'on peut appeler la reconnaissance sociale de catégories de personnes. Le deuxième point portera sur la question de la rationalité de la confiance, puisque dans ce domaine, dans ces recherches actuelles, énormément d'approches sont inspirées de la théorie du choix rationnel, donc qui aborde la confiance avec un certain standard de la rationalité, si on veut, un certain modèle de la rationalité. Modèle qui a un certain intérêt, mais qui en même temps est problématique, et donc je vais présenter ce modèle. Et en troisième point, donc je vais essayer de faire ressortir quelle est la rationalité spécifique de la confiance, donc en m'appuyant effectivement sur ce qu'on peut considérer des acquis de la sociologie classique. Et un point important, le dernier point important, donc qui concerne effectivement la réflexion sur la confiance, entre autres, dans les gouvernants, dans les institutions, et la place de la confiance de la démocratie, est, disons, la question du contrôle. Il y a deux manières de... Alors je cite dans mon papier, je reprends l'opinion de Lénine qui disait « La confiance, c'est bien, mais le contrôle, c'est encore mieux ». Et donc, on peut concevoir le contrôle de deux façons différentes, c'est-à-dire un contrôle externe, si on veut, qui, lui, est beaucoup fondé sur la méfiance. Mais il y a aussi une forme de contrôle qui est interne à la confiance, qui n'est pas du tout de cet ordre-là, et dont il faut restituer la dynamique. Voilà. Alors, pour la suite, disons, de mes diapos, je vais juste vous présenter les citations sur lesquelles je m'appuie. Alors, donc, premier point, que faire des sondages sur la confiance ? Est-ce que ces sondages nous apprennent quelque chose sur la confiance ? Alors, vous êtes familier de ces sondages. J'ai recopié le genre de questions, si on veut, que l'on pose dans ce genre de sondage. Genre de sondage qui vraiment a proliféré ces dernières années et bon, qui effectivement pose des questions assez générales, du genre, en général, faites-vous confiance à la plupart des gens ? En règle générale, direz-vous que l'on peut faire confiance à la plupart des gens, etc. Comment a évolué votre confiance dans les institutions ? Donc on donne une liste d'institutions ou une liste de catégories de personnes et donc on demande aux gens de se prononcer sur ces institutions ou sur ces catégories de personnes. Alors, voici donc le genre de résultat. Ça aussi, vous êtes assez familier, je suppose, puisque c'est très reproduit très fréquemment dans la presse, du genre de, disons de présentation de résultats et de commentaires que ça suscite. Donc là, c'est quelque chose que j'ai relevé sur Internet. Donc, 70% des Suisses ont expliqué faire moins confiance aux politiciens qu'il y a 5 ans. Il en va de même pour les institutions suivantes, dont le taux de confiance est en chute libre, etc. Par contre, il y a des institutions qui continuent à bénéficier d'une grande confiance, les enseignants, les avocats, mais aussi les médias et surtout les médecins. Alors, il y a beaucoup d'imprécisions, si on veut, conceptuelles dans ces tentatives de mesurer la confiance à travers les sondages. Et la question qui se pose, c'est qu'est-ce que ça mesure exactement ? Alors, certains doutent, disons, de la pertinence de ces sondages pour apprendre quelque chose d'intéressant sur la confiance. Je pense à quelqu'un donc, que Pierre Ozanvallon a déjà évoqué tout à l'heure, qui a joué un rôle important dans le développement des recherches sur la confiance depuis 25 ans, qui est Russell Hardin, qui est professeur de politologue, professeur de sciences politiques à New York, qui lui adopte une position très critique sur ces sondages et qui dit que la plupart de ces sondages en fait, ne nous apprennent rien sur la confiance parce qu'ils sont trop imprécis et entre autres, ils supposent implicitement que la notion de confiance je donne sa citation dans la diapo que je présente, la plupart des sondages supposent implicitement que la notion de confiance a une signification que tout le monde comprend. Ils ne recherchent donc pas différentes conceptions de la confiance. Si les sondés font usage de leur sens ordinaire de la confiance, qui peut varier, et si les analyses à partir des sondages regroupent ces sens variables comme étant simplement de la confiance, on peut rien faire de ces données pour, disons, développer une approche un peu rigoureuse de la confiance. Alors, si on est charitable, on admettra simplement que ces réponses émettent des jugements implicites sur le sérieux, l'honnêteté, la fiabilité des gouvernants, des agents, des institutions ou des professions, etc. Alors, je vais proposer une interprétation moins négative en essayant de répondre à la question « qu'est-ce qui est sollicité par ces questions et qu'est-ce que ces questions nous apprennent ?» Les réponses à ces questions ne nous donnent pas des définitions de la confiance, c'est évident, mais elles formulent des opinions, des jugements, et ces opinions et jugements, me semble-t-il, expriment des choses d'assez bien définies, et je dirais que ce qu'elles expriment, ce sont des attachements à des valeurs socialement approuvées. Par exemple, certaines catégories de personnes sont plus dignes de confiance que d'autres parce qu'elles sont désintéressées, dévouées, n'hésite pas à s'exposer pour sauver des vies, incarne davantage l'esprit public, sont moins susceptibles d'être corrompus, de céder à la pression des lobbies de toutes sortes, ou de faire passer leurs intérêts en premier, tiennent leurs promesses et leurs engagements, ne sont pas uniquement dans le paraître et la communication, etc. Donc ce qui émerge dans ces réponses, disons, à ce genre de sondage, ce sont des jugements de valeur, étayés sur des attributions implicites de motivation, de compétences, et de modes de comportement, attribution fondée, me semble-t-il, sur des stéréotypes culturels puisque, et sur des caractéristiques socialement prisées, socialement évaluées, si on veut, ou valuées plutôt, puisque les gens n'ont pas, pour l'essentiel, d'expérience personnelle, disons, ni des gouvernants, ni des membres des catégories qu'ils sont censés évaluer. Donc, on peut dire que ce qui est ainsi mesuré, c'est essentiellement une reconnaissance sociale. Et la confiance telle que donc, formulée dans les réponses aux questions d'un sondage est, me semble-t-il, l'expression du degré de reconnaissance sociale de catégorie de personnes. En gros, le public élit des catégories de personnes manifestant des dispositions, des attitudes et des modes de comportement, attestant qu'elles sont mues par des valeurs socialement prisées, socialement valuées, mais sans que ces valeurs soient précisément définies, ça reste quelque chose d'assez vague. Donc il s'agit en quelque sorte d'un classement de catégories sociales selon le degré auquel elles apparaissent porteuses des valeurs auxquelles le public manifeste implicitement son attachement. Alors, cette forme de confiance, cette forme plutôt de reconnaissance sociale, s'explique par la confiance, on peut dire par la confiance que les gens ont dans ceux qui partagent leurs propres valeurs. Et là, je cite mon collègue Pierre Livet, parce que, dit-il, Pierre Livet explique que la reconnaissance sociale implique un partage de valeurs entre l'acteur et ceux qui le reconnaissent. Ainsi, ceux qui reconnaissent les pompiers comme la catégorie en qui ils sont le plus confiance, c'est ce que révèlent d'ailleurs les sondages récents sur la confiance, que c'est les pompiers qui suscitent le plus la confiance des gens. Et donc, ceux qui reconnaissent les pompiers comme la catégorie en qui ils ont le plus confiance manifestent leur adhésion aux motivations et aux valeurs qu'ils attribuent à ceux-ci en tant que catégorie, pensant qu'ils représentent et soutiennent ses motivations et ses valeurs dans leur conduite. On peut ajouter que les pompiers sont aussi ceux à l'égard desquels ils peuvent retenir le plus facilement leurs suspicions possibles. Et on a le cas inverse, par exemple, lorsqu'il s'agit des grands patrons ou des hommes politiques, où précisément cette suspicion possible peut s'exercer beaucoup plus facilement. Alors, cette confiance manifestée dans des opinions et des jugements reste, me semble-t-il, quelque chose de relativement abstrait et donc dépend beaucoup des croyances relativement générales répandues à propos des catégories sociales et de leurs attitudes, motivations, comportements typiques, ce que j'appelle des stéréotypes. Il y a incontestablement donc un lien entre confiance et reconnaissance sociale, mais ce lien est plus complexe que ce qui apparaît dans ce commentaire sur les sondages, et c'est précisément ce lien entre confiance et reconnaissance que je voudrais expliciter dans la suite de mon exposé. Si la reconnaissance sociale s'exprime par la confiance, et l'une et l'autre par un partage de valeurs, dans certaines formes de la confiance est impliquée une autre forme de reconnaissance. Il ne s'agit pas tant d'apprécier ou d'évaluer une catégorie de personnes en fonction de des motivations, valeurs typiques qu'on lui attribue, et parce qu'elle a les mêmes valeurs et les mêmes motivations que soi, qui sont des valeurs et des motivations approuvées socialement dans une culture et dans une société donnée, il s'agit plutôt d'attribuer une valeur à une personne particulière et de régler son comportement à son égard sur la base de cette reconnaissance. C'est ce que Simmel avait pointé dès le début du siècle, lorsqu'il disait que lorsqu'on nous fait confiance, nous sommes presque engagés par un jugement porté sur nous par avance. J'y reviendrai, je le commenterai plus en détail tout à l'heure. Il ajoutait, il faut être positivement mauvais pour décevoir ce jugement porté sur nous par avance. Alors donc, on peut, donc, dans la confiance, effectivement, il y a ce jugement. On peut concevoir ce jugement de différentes façons, et notamment de deux façons. Donc, une première façon, c'est celle que j'ai exposée dans le cas des sondages, où on a une sorte d'élection, si on veut, d'élection de catégorie sociale faite dans les réponses à un sondage. Et donc, à ce moment-là, le jugement prend la forme d'une opinion, Les philosophes diront que ce jugement a une nature propositionnelle, c'est-à-dire je pense que, je crois que, hein, je trouve que. Donc, le propositionnel, c'est un que. Voilà. Et la seconde façon de concevoir ce jugement et cette reconnaissance, c'est de les concevoir comme incarnés dans le geste par lequel quelqu'un va s'en remettre à quelqu'un d'autre, hein, va s'en remettre à quelqu'un d'autre du bon soin, de quelque chose à quoi il est attaché, qui lui tient à cœur, et cela en lui conférant le pouvoir de décider ce qu'il convient de faire pour servir au mieux ses intérêts et ses désirs. Et donc, cette reconnaissance qui est présente dans ce geste-là me paraît très spécifique de la confiance et différente de la reconnaissance qui s'exprime simplement dans un jugement sur des catégories de personnes. Alors, j'en dirai plus tout à l'heure sur ce second type de jugement. Je voudrais conclure ce premier point en soulignant qu'il peut y avoir un écart important entre un jugement énoncé verbalement, qui est quelque chose de relativement abstrait et qui simplifie considérablement les faits, un jugement donc énoncé verbalement, une disposition assez générale à l'égard d'attitudes et de comportements typiques, hein, nos jugements sur les pompiers sont aussi étayés sur ce genre de disposition assez générale, hein, à l'égard d'un certain type de comportement. Et puis, un troisième aspect, donc, qui est encore très différent, qui est l'engagement qui se traduit par des attitudes et des modes de comportement adoptés pratiquement. Par exemple, je peux penser et dire « pique-pendre de la police », mais le jour où j'ai besoin de ce service, parce que je me trouve dans une situation où je ne peux pas faire autrement, je ne peux que m'en remettre à elle, je ne peux que compter sur son sérieux, sur sa connaissance et son respect des lois, sur son savoir-faire, et ne pas craindre qu'elle profite de ma vulnérabilité pour me nuire. Je pourrais exprimer verbalement mon peu de confiance dans la police, mais exprimer concrètement ma défiance par des gestes et des comportements consisterait à interférer en permanence avec le travail des policiers, leur dicter leur comportement en revendiquant ma compétence dans leur domaine, ne pas les laisser être juges de ce qu'il convient de faire et chercher à les contrôler, les suspecter de vouloir me mener en bateau ou leur demander immédiatement des comptes. Alors, si ces traits que je viens d'évoquer, si cette différence que je viens d'évoquer entre, disons, deux types de jugements est reconnue par un certain nombre d'auteurs, il ne l'est pas reconnu par tous. Et donc, mon sentiment est que beaucoup de recherches actuelles contournent en fait le phénomène de la confiance, en partie parce qu'elle ne privilégie qu'un seul de ces moments, et notamment le moment cognitif. Et c'est notamment le cas de la plupart des analyses qui s'inspirent de la théorie du choix rationnel et de la théorie des jeux, qui sont les plus nombreuses aujourd'hui. Et donc, je vais dans le deuxième point de m'exposer, aborder l'approche de la confiance qui s'est faite dans ce cadre de théorie. Qui est une théorie qui est reprise par les différentes disciplines des sciences sociales, notamment en économie. Les économistes sont très friands de modélisation de la confiance à l'aide des outils de la théorie des jeux, mais on la trouve aussi chez des sociologues et chez des politologues. Alors, donc, point 2, comment donc assurer la rationalité de la confiance, les réponses en termes de choix rationnel. Alors, dans la diapo là, que je vous présente, je vous donne trois citations d'auteurs qui ont marqué, qui ont été à l'origine, disons, du développement, de l'étude de la confiance dans ces paradigmes issus de la théorie du choix rationnel et de la théorie des jeux. Donc, le premier est James Coleman. Dans la théorie du choix rationnel, on va supposer que la confiance est l'objet d'un choix rationnel. Un acteur décide de faire ou de ne pas faire confiance à l'issue d'un calcul des gains et des pertes qu'il a anticipé. Donc, vous avez la citation de Coleman, un acteur rationnel fera confiance si la probabilité de gagner rapportée à la probabilité de perdre est plus grande que ce qui serait perdu rapporté à ce qui serait gagné. Et pour faire ce calcul, l'acteur rationnel cherchera un maximum d'informations sur ses gains et ses pertes potentielles, de même que sur la fiabilité de celui vis à qui la décision est à prendre. Il va s'enquérir notamment des incitations de celui-ci, donc de ses intérêts et motivations à honorer la confiance faite. Et dans ces conditions, la confiance procédera d'un savoir, bon, un savoir qui est faillible, c'est-à-dire on peut se tromper, ce qui confère donc une dimension de risque à la confiance. Alors, entre parenthèses, Coleman est aussi un des promoteurs de l'idée de capital social, idée qui est souvent associée à la problématique de la confiance. On entend par capital social, disons, des caractéristiques de l'organisation sociale qui sont des ressources pour faciliter les actions réciproques, pour rendre possible et efficace la coopération sociale. Par exemple, un riche réseau de relations sociales, un riche réseau, un bon niveau de la sociabilité, la présence de nombreuses associations, la présence de formes de travail en groupe, toutes sortes de choses de ce genre sont considérées comme relevant du capital social, de même que des habitudes de confiance incorporées dans les mœurs. Cette incorporation des habitudes de confiance dans les mœurs varie selon les groupes et les sociétés. Ou encore un haut niveau de participation civique est considéré comme relevant du capital social. Alors, ce qui donne leur unité aux approches de la confiance inspirées de la théorie du choix rationnel, c'est leur traitement de la confiance comme un phénomène cognitif. C'est-à-dire que la confiance est une affaire de savoir et de croyance, de raisonnement et d'évaluation, toute chose dont la validité s'établit en termes de vérité. Alors, j'ai déjà donné une citation de Coleman. Donc, les deux citations suivantes sont des citations de deux auteurs importants dans l'étude de la confiance. Donc, l'un est Diego Gambetta, qui en 1988 a relancé vraiment la recherche sur la confiance en publiant un ouvrage collectif avec des textes marquants. Et l'autre est Russell Hardin, dont j'ai déjà parlé. Donc, pour Gambetta, la confiance est une affaire d'estimation subjective de la probabilité d'un certain comportement de la part du bénéficiaire de la confiance. C'est-à-dire une estimation subjective de la probabilité qu'il va honorer la confiance faite. Donc, vous avez la citation, quand nous disons que nous faisons confiance à quelqu'un ou que quelqu'un est digne de confiance, nous voulons dire implicitement que la probabilité qu'il réalise une action à notre faveur plutôt qu'à notre détriment est assez élevé pour que nous nous engagions dans une coopération avec lui. Hardin, quant à lui, ne raisonne pas en termes d'estimation subjective de probabilité, de probabilité de fiabilité, si on veut, mais lui va insister sur l'aspect croyance. La confiance est une affaire de croyance, et donc de croyance ou de connaissance. Alors, donc, vous avez la citation, « Dire « je te fais confiance » n'est rien dire de plus que « je connais ou je crois certaines choses à ton sujet, généralement des choses concernant tes motivations ou tes raisons de te montrer à la hauteur de ma confiance, d'être quelqu'un sur qui je peux compter. » Donc, mon estimation de ta fiabilité dans un contexte particulier est simplement ma confiance en toi. On retrouve à la fin, d'ailleurs, de la citation, cet aspect qui était présent chez Diego Gambetta, donc l'aspect estimation de la fiabilité. Donc, le fait que dans la confiance, l'accent est mis sur, si on veut, sur la croyance, mais cette croyance, si on veut, là aussi, donc pour reprendre une expression que j'ai utilisée tout à l'heure, est de nature propositionnelle. Je crois que, nous croyons que. Je crois certaines choses à ton sujet, je crois que tu vas être digne de confiance, etc. Alors qu'il y a, si on veut, et j'y reviendrai tout à l'heure, un autre type de croire, oui, pour lequel peut-être qu'il faudrait utiliser le mot croyance, c'est le fait de croire en une personne, est très différent de croire que. Croire en une personne, c'est autre chose que croire qu'une personne est digne de confiance. Parce que c'est l'aspect d'avoir foi en quelqu'un, de faire crédit à. Et précisément, donc, dans cette théorie-là, cet aspect-là non seulement n'est pas pris en considération, mais ne doit pas l'être. Parce que si on le prenait en considération, on sortirait nécessairement de la théorie standard de la rationalité. Alors, à mes yeux, ces approches, je vais en dire un peu plus encore, commettent, me semble-t-il, donc, ce que j'appelle une erreur de catégorie, parce qu'il me paraît difficile de dire que croire que quelqu'un est digne de confiance en ayant de bonnes raisons de croire que quelqu'un est digne de, confiance, à mes yeux, ce n'est pas du tout la même chose que lui faire confiance. Et estimer la probabilité d'une conduite future ou entretenir certaines croyances à ce sujet conduit effectivement à faire des inférences sur la conduite à tenir, mais ce n'est pas encore de la confiance. Ça va être une composante de la confiance, mais le geste de la confiance ne peut pas être réduit à cet aspect-là. Et ça, je crois que c'est effectivement la sociologie classique qui va nous l'apprendre. Mais avant de venir à la sociologie classique, je voudrais en dire un peu plus sur la modélisation de la confiance dans la théorie des jeux et sur la théorie de Hardin, qu'on appelle la théorie des intérêts encapsulés ou enchâssés. Alors, les modélisations, je ne vais pas beaucoup insister sur les modélisations de la confiance dans la théorie des jeux, parce qu'à mes yeux, elles sont, je dirais, vulgairement à côté de la plaque, pour l'essentiel, puisque donc, en fait, elles examinent des situations de choix dans lesquelles les joueurs ont à décider s'ils coopèrent ou pas. Donc, ils sont supposés prendre leurs décisions en fonction d'un calcul des gains et des pertes liés à chacune des options qui se présentent à eux, coopérer ou pas, telles que représentées par une matrice du genre matrice du dilemme du prisonnier. Et donc, l'hypothèse est que la comparaison des bénéfices et des coûts anticipés de la coopération ou de la non-coopération, en tenant compte, bien sûr, du comportement possible du partenaire, est ce qui va déterminer la décision de s'engager, de coopérer ou de ne pas coopérer. Et donc, de la tendance à coopérer manifestée dans le jeu, on va inférer que l'échange met en jeu une certaine confiance entre les joueurs, tandis que la non-coopération témoignerait d'une sorte de méfiance. En fait, pour que ce jeu ait quelque chance de fonctionner comme modélisation du type de contexte où la confiance apparaît, il faut qu'il soit répété séquentiellement ou soit susceptible de l'être. Sinon, il me semble qu'il n'y a aucune incitation à être coopératif. En effet, lorsque le jeu est susceptible d'être répété, un acteur peut compter sur la coopération de l'autre parce qu'il pense qu'il sera dans son intérêt d'être coopératif, ne fût-ce que pour maintenir la relation créée et engagée et pour profiter des bénéfices potentiels de la continuation de l'interaction. Alors, ces modèles sont très à la mode actuellement, et d'ailleurs, assez étonnamment, donc je disais tout à l'heure que même les neurosciences, qui étudient le fonctionnement du cerveau, s'intéressent à la confiance et essaient de comprendre quel phénomène dans le cerveau est la confiance. Et en fait, pour le faire, ils s'appuient énormément sur effectivement ces modélisations et ces jeux créés par la théorie des jeux dans le domaine de ce qu'on appelle l'économie expérimentale. Voilà. Alors, bon, les critiques, si on veut, qui ont été faites de l'approche de la confiance par ce genre de théorie, y en a plusieurs, mais je n'en retiendrai que deux. Il y en a une qui est une critique assassine, qui a été faite par un grand économiste, qui n'est autre que Williamson, qui a eu un prix Nobel d'économie l'an dernier, et qui, dès 1993, attirait l'attention sur le fait que Si on met dans une même phrase confiance et calcul, on met deux termes contradictoires. Et que donc, effectivement, là où il y a du calcul, il ne faut pas parler de confiance. La confiance n'a rien à faire là-dedans. Et que donc, s'il y a du calcul, on a affaire simplement aux échanges économiques classiques. Donc là je cite Williamson, la confiance disparaît quand le calcul s'introduit dans les relations, quand la confiance est justifiée par des attentes de conséquences réciproques positives, elle est simplement une autre version de l'échange économique. Et donc on n'a pas besoin d'introduire la confiance pour en rendre compte. Et du coup, en fait, Williamson défend une idée qu'on va retrouver chez Simmel et chez Luhmann, c'est que Dans la confiance, il y a quelque chose qui excède tout calcul ou toute justification. Et c'est précisément ce fait d'aller au-delà, hein, qui est constitutif de la confiance. Et dès lors qu'on raisonne en termes de calcul et tout ça, ce moment, ce geste-là, ce dépassement est perdu. Alors, Williamson va réserver la confiance aux relations interpersonnelles, aux relations entre amis, aux relations familiales, etc. Donc, bon, ce qui pose un problème que je vais aborder plus tard. Hein. La deuxième critique est celle de Russell Hardin lui-même, hein, qui souligne une sorte d'incohérence dans cette théorie. Et cette incohérence est liée à la manière dont ces modélisations associent confiance et coopération. Ils n'ont pas d'ailleurs une idée très précise de ce que peut être la confiance. C'est-à-dire, elle présuppose que choisir de coopérer, c'est faire preuve de confiance, et ainsi la coopération dans ces jeux devient l'indicateur de la confiance, tandis que ne pas coopérer serait faire preuve de méfiance. Mais en même temps, elle présuppose que la confiance favorise la coopération. Et donc, il y a quelque chose de circulaire dans ces modélisations. La coopération est à la fois l'indicateur de la confiance et sa conséquence. Alors, Hardin va développer l'idée que la coopération dans les échanges de toutes sortes peut être motivée par bien d'autres raisons que la confiance. Et effectivement, on peut penser qu'une grande partie des coopérations effectives se passe de la confiance. Alors j'en viens, deuxième aspect, donc à la théorie des intérêts enchâssés de Hardin, la théorie des intérêts encapsulés. Hardin s'inspire aussi de la théorie du choix rationnel, hein, c'est son point de départ, mais en même temps il soutient qu'à proprement parler, on ne choisit pas de faire confiance. Faire confiance n'est pas vraiment un choix. La confiance est plutôt analogue à la conclusion d'un raisonnement pratique. Elle s'ensuit logiquement d'un jugement positif porté sur autrui qui prend la forme d'une croyance dans sa fiabilité. On croit que autrui est digne de confiance et va honorer la confiance faite. Et si on croit cela, on va logiquement lui faire confiance. Donc Hardin dit, hein, si je suis fondé à penser que tu seras digne de confiance, alors je te ferai confiance. Et il laisse entendre qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur cette conclusion, hein, et que ce sont plutôt les prémices dont elle est tirée qui méritent toute l'attention, car ce sont elles qui peuvent expliquer la confiance et lui donner un fondement rationnel. Alors la théorie de... Donc Hardin appelle sa théorie des intérêts enchâssés ou encapsulés. Et c'est pas très compliqué, ça veut dire simplement ceci, hein, je fais confiance à quelqu'un pour autant que je suis persuadé qu'il est digne de confiance, et je suis persuadé qu'il est digne de confiance parce que je sais qu'il fera passer mes intérêts ou mon bien-être avant les siens, plus exactement qu'il va enchâsser mes intérêts dans les siens, et cela parce qu'il s'agit de mes intérêts. Donc, hein, c'est l'idée des intérêts enchâssés. Hein, je suis persuadé que l'autre va enchâsser, donc encapsuler, comme il dit, mes intérêts dans les siens, et cela, et donc les faire passer avant les siens, et cela parce qu'ils sont mes intérêts. Si je sais par contre que ses intérêts sont opposés aux miens, et suis persuadé qu'il fera de toute façon passer les siens avant les miens, je ne jugerai pas cette personne digne de confiance, et donc je ne lui ferai pas confiance, je me méfierai de lui. Alors, pour former donc sa croyance sur la fiabilité d'autrui, celui qui fait confiance doit donc connaître, hein, les intérêts, les dispositions de l'autre et s'assurer de ses motivations et de ses engagements. Et il va s'appuyer pour cela sur ce qu'il sait de cette personne par expérience directe, sur ce qu'il sait de sa moralité, de ses dispositions, de son caractère ou de ses compétences, ou sur ce qu'il peut inférer d'une réputation, hein, qui existe dans un milieu social. Donc, l'idée de Hardin, hein, c'est vraiment une approche cognitive, hein, puisque il dit dès lors que nous disposons des connaissances pertinentes, hein, concernant le bénéficiaire potentiel de la confiance, ces connaissances constitue notre degré de confiance ou de méfiance. Et donc on retrouve l'équivalent de la citation qui est affichée. Dire à quelqu'un que nous avons confiance en lui signifie que nous connaissons ou pensons connaître des choses pertinentes à son sujet, en particulier au sujet de ses motivations à notre égard. Alors, l'anticipation des motivations du bénéficiaire de la confiance comporte néanmoins une supposition, c'est que l'autre, le bénéficiaire de la confiance, va souhaiter continuer la relation ou va souhaiter répéter les échanges dans le futur parce que cela lui est profitable ou lui sera profitable. Donc, il aura d'autant plus intérêt à se montrer digne de confiance qu'il sera plus intéressé à poursuivre la relation. Donc, dit Hardin, vous faites confiance à quelqu'un si vous croyez qu'il sera dans son intérêt d'être digne de confiance de la manière qui convient et au moment qui convient, et que tel sera son intérêt parce qu'il souhaite maintenir sa relation avec vous. Et c'est en particulier donc sa réputation qui est en jeu, et le maintien de sa réputation est une motivation forte pour se montrer digne de confiance. Voilà, c'est comme ça, disons, que la confiance apparaît comme un phénomène que l'on peut expliquer rationnellement, hein, si on veut. Et expliquer rationnellement veut dire rapporter à des raisons, et cette confiance, disons, expliquée rationnellement, donc, est une confiance bien placée, elle est fondée sur des raisons, et ces raisons sont des raisons de croire que le destinataire est digne de confiance ou va honorer la confiance faite. Et donc, ces raisons renvoient en définitive à une connaissance personnelle de l'autre et de ce qui, en lui, peut l'inciter à se montrer digne de confiance. En même temps, il y a un autre aspect de ces raisons qui sont les bonnes raisons qui sont du côté du bénéficiaire de la confiance. C'est-à-dire que, effectivement, la théorie des intérêts encapsulés suppose que celui qui fait confiance croit que l'autre, dans ce qu'il fera, va adopter les bonnes raisons. Et les bonnes raisons, c'est d'agir dans mon intérêt parce que c'est mon intérêt. Alors, il résulte de tout cela que pour Hardin, la confiance est un phénomène strictement interpersonnel. Un phénomène interpersonnel qui est limité, c'est-à-dire on fait confiance à une personne déterminée pour quelque chose de déterminé sur un point précis ou dans un domaine particulier. Ce n'est pas quelque chose de général. Et dès que l'on quitte les relations interpersonnelles, on n'a plus affaire à la confiance proprement dite, mais à des phénomènes apparentés. Alors, un mot sur ces phénomènes apparentés, que Hardin distingue, parce que je vais aussi y revenir. Il y a un phénomène apparenté. Alors, c'est vrai que l'anglais dispose de plus de termes pour parler de la confiance que nous. Nous, on n'a que le terme confiance. Et en anglais, il y a trust, il y a confidence. Il y a aussi « to rely on », donc la reliance, si vous voulez. Alors, et donc, effectivement, pour Hardin, ce phénomène-là, le fait de se fier à, donc la reliance, si on veut, « to rely on », et la « confidence », c'est des phénomènes différents du trust, différents de la confiance. Alors, bon, on pourrait s'étendre sur l'analyse de la reliance. Ce qui est assez paradoxal chez Hardin, c'est que il considère comme de la reliance ce que, habituellement, on serait tenté de considérer comme étant, à proprement parler, la confiance, puisque lorsqu'il donne la définition, il introduit ce qui, pour moi, est la définition même de la confiance. C'est-à-dire, quand je me fie à quelqu'un pour faire quelque chose, quand je compte sur lui pour faire quelque chose, j'attends de lui qu'il agisse en tant que mon agent en ce qui concerne certaines questions. Donc je m'en remets à lui. Il y a un phénomène de délégation et il y a un phénomène, disons, le fait de conférer un pouvoir de décider ce qu'il faut faire pour faire ce qui est au mieux pour moi. Et donc le fait de faire de l'autre mon agent est quelque chose qui me paraît être assez central à la confiance, et lui en fait un phénomène en marge de la confiance. Et le phénomène de la reliance est un phénomène beaucoup plus large, parce que, bon, qui demande une analyse aussi en soi, parce que on se fie à des quantités de choses, on se fie à des outils, on se fie à des objets, on se fie à toutes sortes de choses de l'environnement, et effectivement c'est un phénomène assez spécifique. Pour ce qui est de la confidence, voilà, En fait, Hardin, me semble-t-il, reprend la distinction que le théoricien allemand Niklas Luhmann avait introduit en 1988, donc entre trust et confidence. Luhmann appuyait ses distinctions sur le fait que dans la confiance, on prend un risque, et que là où il n'y a pas de prise de risque, il n'y a pas vraiment de trust, et qu'il y a un phénomène beaucoup plus atténué qu'il appelle confidence, et qui est lui plus lié au danger. Mais la définition que Hardin donne est en fait une définition qui est la même que celle que donnait, par exemple, Zimmel dans sa philosophie de l'argent en 1900, lorsque Zimmel décrivait la confiance qu'a le détenteur de monnaie ou d'argent liquide, si on veut, de recevoir une certaine quantité de marchandises contre cet argent. Et Zimmel disait que cette confiance-là était une sorte de foi qui n'est rien d'autre qu'un savoir inductif atténué. Savoir inductif atténué. Donc l'exemple qu'il donne, c'est l'exemple qu'il donne de cette foi ou de ce savoir inductif atténué, c'est si l'agriculteur ne croyait pas que son champ va porter des fruits cette année, comme les années précédentes, il ne sèmerait pas. Si le commerçant ne croyait pas que le public va désirer acheter ses marchandises, il ne se les procurerait pas. Donc c'est ça l'induction. L'induction est un type de raisonnement très particulier qui consiste à extrapoler du passé vers l'avenir. Le soleil s'est levé tous les jours jusqu'à présent, donc je vais inférer qu'il n'y a pas de raison qu'il ne se lève pas demain matin. Donc c'est ça l'induction. On extrapole du passé vers l'avenir, mais les logiciens vont montrer qu'il n'y a pas de fondement rationnel à cette extrapolation. D'où le fameux problème de l'induction en philosophie. Donc là, cette confidence représenterait une attitude spécifique, plutôt passive, et donc cette sorte de foi est beaucoup moins exigeante que la confiance du point de vue épistémique, si on veut, parce qu'elle repose sur une généralisation à partir du passé. Donc elle ne requiert pas d'évaluer la fiabilité d'une personne, de former une croyance portant sur ses intentions, ni connaître ses motivations, etc. Et donc pour Hardin, par exemple, la confiance dans les institutions ou la confiance dans le gouvernement serait de cet ordre-là, de cette forme de confiance faible. Il y aurait matière à discuter cette conception de la confidence comme une forme faible de la confiance. Je pense que moi, je serais plutôt tenté. Effectivement, il y a une dimension de croyance formée par une inférence inductive, mais on peut y voir aussi le type d'assurance, si on veut, que donne une absence de doute, si on veut. Il me semble que cette forme de confiance, cette confidence, paraît étroitement liée d'un côté au fait que nous prenons une quantité de choses comme allant de soi. Lorsque nous agissons, nous prenons une quantité de choses comme allant de soi. Nous nous fions aux apparences normales, c'est-à-dire à la manière dont les choses apparaissent. Nous nous fions à ce que nous percevons des situations. Et d'une certaine manière, nous ne commençons pas par douter. De cette manière, le doute n'est pas premier, la suspicion n'est pas première. Et donc, le mouvement premier, c'est de nous fier à ce qui va de soi ou à ce qui apparaît, et que ce fait de se fier à ce qui apparaît est précisément ce qui donne ce type d'assurance très, très particulier qu'on appelle confidence. Donc là, s'appuyer sur des travaux qui ont été faits en sociologie, notamment je pense à la sociologie de Goffman, qui s'est beaucoup intéressée à la manière dont les gens se fient aux apparences normales, et en fait ce fait de se fier aux apparences normales fait aussi qu'ils s'abstiennent de s'inquiéter, de douter des apparences, de ce qui apparaît, et donc peuvent continuer à agir tranquillement selon leur routine. Alors pour conclure sur Hardin, je dirais que il est très sceptique vis-à-vis de tout le discours public actuel qui attribue une part importante des problèmes de société contemporaine à un soi-disant déclin de la confiance. Il pense que l'on surévalue l'opérativité de la confiance, Il ne s'agit pas de nier son importance, mais de se rendre compte que dans les sociétés complexes actuelles, les relations et la coopération sociale reposent aussi sur d'autres bases que la confiance, et entre autres sur des dispositifs qui assurent la fiabilité des personnes et des institutions. Donc, ces dispositifs sont de divers ordres, et donc il y a les lois, les contrats, et donc tout ce qui actuellement se met en place à travers le droit, hein, donc qui remplace les relations de confiance interpersonnelles, puisque pour Hardin, la confiance est interpersonnelle, par des relations régulées par des contrats, des lois, des sanctions, etc. Et que du coup, donc, pour Hardin, ce qui importe, ce n'est pas tant la confiance en soi que le fait, d'une part, de bien placer sa confiance, donc de bien doser sa confiance, et surtout de développer, disons, des incitations à ce que les gens se manifestent, se manifestent comme étant dignes de confiance et fiables. Donc, troisième point. Alors, donc il me semble que je viens de parler de l'approche de la confiance dans cette ensemble de recherches, disons, inspirées de la théorie des choix rationnels, de la théorie des jeux, hein, où je pense qu'on passe un peu à côté de ce que c'est que le geste spécifique de la confiance. Et donc, je voudrais maintenant essayer de dire comment je perçois ce geste spécifique de la confiance, et donc aussi comment, du coup, on est obligé d'introduire un autre modèle de rationalité que celui qui prévaut dans ce genre de théorie. Alors, donc, c'est vers la tradition sociologique que je vais me tourner, et donc entre autres trois auteurs dans cette tradition-là qui me paraissent avoir contribué de façon importante à l'étude de la confiance, et le premier d'entre eux est Simmel, donc, dont j'ai déjà parlé, le deuxième est Niklas Luhmann. Niklas Luhmann donc, est un grand théoricien allemand, sociologue de et donc qui est il est connu pour ce qu'on appelle la théorie des systèmes autopoïétiques, système social comme autopoïétique, donc le système qui se fabrique lui-même. Et avant de se lancer dans ce genre de théorie, il avait écrit en 1968 un petit ouvrage, il fait 80 pages sur la confiance, qui est un livre très très stimulant et qui en fait s'appuie beaucoup sur Simmel et essaye de développer les intuitions de Simmel dans une direction qui est intéressante. Donc en fait, ce livre de Luhmann a été traduit en même temps qu'est paru. On avait convaincu les éditeurs de Economica d'éditer en même temps la traduction du livre de Luhmann en même temps que ce livre sur les moments de la confiance. Alors Simmel, donc, est intéressant. Donc Simmel, sociologue allemand, écrivant à la fin du 19e et au début du 20e, et donc écrivant notamment sa philosophie de l'argent, donc en 1900, et dans le cadre de cette réflexion sur l'argent, donc il rencontre le phénomène de la confiance dans la monnaie. Qu'est-ce que c'est que la confiance dans la monnaie, Et donc il essaie de distinguer ce que je perçois comme étant quatre formes de confiance. Quatre formes de confiance, et donc ce travail de distinction est très précieux. La première forme de confiance est la confiance du public dans les institutions qui émettent la monnaie et qui garantissent sa valeur, qui garantissent sa stabilité monétaire. Confiance dans les institutions. Il y a une deuxième composante, qui est un peu plus énigmatique, mais qui est la confiance dans le système économique ou dans la sphère économique, et donc qui est la confiance, dit-il, je le cite, qui est la confiance dans l'aptitude, non, c'est pas tout à fait la même, la confiance dans l'aptitude de la sphère économique à nous remplacer sans dommage la quantité de valeur que nous avons abandonnée en échange de cette valeur intérimaire qu'est une pièce de monnaie ou un billet de banque. Et donc c'est précisément cette forme de confiance qu'il caractérisait comme un savoir inductif atténué, en évoquant l'exemple donc du l'agriculteur et du commerçant. La troisième forme de confiance, il a défini en termes d'escompte. En effet, donc, si celui qui détient une somme d'argent est assuré de pouvoir réutiliser cette somme d'argent dans le futur en obtenant une certaine quantité de biens, il dépendra néanmoins du bon vouloir du possesseur de ces biens contre lesquels il voudra un jour échanger son argent, car ceux-ci seront libres de lui céder ou de garder leurs biens, d'accepter ou de refuser son argent. Et donc, il se peut bien que les promesses contenues dans son argent qu'il détient ne soient pas remplies. Et de ce fait, le possesseur d'argent n'est pas absolument garanti de pouvoir réutiliser son argent à sa valeur. Il est simplement, dit Zimmel, vraisemblable qu'il pourra le faire. La garantie de pouvoir réutiliser l'argent, c'est d'escompter l'énorme vraisemblance que chaque particulier, malgré la liberté qu'il a de refuser l'argent, l'acceptera. Acceptera de céder ses biens contre l'argent qu'on lui propose. Donc là, c'est une autre forme de confiance que les deux précédentes. Et il y en a une quatrième, qui, dit Zimmel, sous-tend le crédit commercial. Alors là, effectivement, c'est plus une confiance dans des institutions ou un gouvernement, c'est plus une confiance dans le système économique, c'est plus une escompte sur la vraisemblance, le caractère vraisemblable de l'échange qu'il pourra faire, c'est une confiance en une personne. Et cette forme, donc dans le cas où on fait un crédit à quelqu'un, un crédit commercial à quelqu'un. Alors, et Zimmel de préciser que cette forme ajoute un moment autre à la simple conclusion inductive, sous-jacente à la seconde forme, si le paysan ne croyait pas que son champ va porter des fruits cette année, comme les années précédentes, il ne sèmerait pas. Et donc, il s'agit d'une autre forme de croyance, d'un autre élément de foi, dit Zimmel. Je cherche là, effectivement, la citation, voilà. Voilà, c'est ça. Et Zimmel parle d'une foi socio-psychologique apparentée à la foi religieuse. Il s'agit d'un état d'âme qui ne se situe absolument pas dans la direction du savoir, mais d'un côté, assurément moins, donc on est en deçà de la connaissance et du savoir, mais de l'autre, bien davantage que ce savoir. Selon une excellente tournure, pleine de profondeur, on croit en quelqu'un, sans ajouter ou même sans penser clairement ce que l'on croit en vérité à son sujet. Le moi s'abandonne à toute sécurité, sans résistance, à la représentation qu'il a de l'autre, représentation se développant à partir de raisons invocables qui, cependant, ne la constitue pas. Donc il y a bien des raisons à sa foi, des raisons invocables, des raisons explicitables, mais d'une certaine manière, donc, sa foi, quand on croit en quelqu'un, la foi, donc cette foi socio-psychologique, va au-delà de ces raisons qu'on peut invoquer pour lui faire crédit, pour avoir foi en lui. Donc cette quatrième forme de confiance a bien une base cognitive et rationnelle, mais elle va au-delà du savoir, ou, comme dit Zimmel, elle va dans une toute autre direction. On peut dire qu'elle est, pour une part, inconditionnée. Alors, c'est ce que Zimmel explique dans ses considérations dans un autre ouvrage, publié donc plus tard, 8 ans plus tard, 1908, qui s'appelle « Sociologie », où il s'intéresse aux sociétés secrètes. Les sociétés secrètes sont quelque chose de très particulier, parce qu'effectivement, il considère que dans ce genre de société, le secret va déterminer les relations réciproques de ce qui partage ce secret ensemble. Donc, c'est vraiment un type de groupement particulier. Et dans ce type de société secrète, évidemment, la confiance réciproque des membres est quelque chose de décisif. C'est-à-dire, effectivement, il faut que les membres d'une société secrète puissent se faire confiance les uns aux autres pour que la protection, si on veut, du groupe soit assurée. Et précise Zimmel, il s'agit d'une confiance tout à fait spécifique, celle dans la capacité de se taire. Et Zimmel d'ajouter, il s'agit là de toute évidence d'une foi en la personne, sociologiquement plus abstraite que tout autre, parce que cette foi peut recouvrir n'importe quel contenu commun à un groupe. Et quelques pages auparavant, donc toujours dans ce livre-là, Zimmel avait de nouveau distingué, comme dans Philosophie de l'argent, ce type de confiance qu'est la foi en une personne d'un autre type de confiance, une confiance de type donc plus cognitif, définie comme un état intermédiaire entre le savoir et le non-savoir sur autrui. Et donc on a cette fameuse phrase de Zimmel qui me paraît aussi importante, « Celui qui sait tout d'un autre n'a pas besoin de lui faire confiance, si l'information est complète, pas besoin de faire confiance. » Mais celui qui ne sait rien non plus ne peut raisonnablement pas faire confiance. Donc, effectivement, c'est un état intermédiaire entre le savoir et l'ignorance, entre le savoir et le non-savoir. Mais la foi en une personne voilà, est de l'ordre d'une attitude tout à fait différente. Et là, effectivement, je cite les expressions de Zimmel, hein, d'une attitude tout à fait immédiate de la sensibilité, donc ça met disons, la sensibilité, les affects en jeu, et c'est une foi qui se passe de justification par des preuves que la personne en est digne, et même bien souvent malgré la preuve du contraire. L'acceptation sans réserve de l'autre personne n'est induite ni par l'expérience ni par les hypothèses. Voilà. Alors c'est ce type de foi, donc de type de confiance plutôt, qui est en jeu, dit Zimmel, dans la société secrète, hein, et Zimmel donc précise que, alors, à ses yeux, les sociétés secrètes sont une école extrêmement efficace de la solidarité morale entre les hommes, ce qui est d'ailleurs un peu paradoxal lorsqu'il s'agit de sociétés secrètes de bandits ou de terroristes, mais bon. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il pointe en des termes qui me paraissent très appropriés la dynamique morale de la confiance interpersonnelle. Et donc, voilà, on a cette fameuse phrase qui, pour moi, est essentielle. Il y a dans la confiance qu'un être humain porte à un autre une valeur morale aussi haute que dans le fait de ne pas décevoir cette confiance. Et cette valeur est peut-être même encore plus libre et plus méritoire, car lorsqu'on nous fait confiance, nous sommes presque engagés par un jugement porté sur nous par avance, et il faut être positivement mauvais pour le décevoir. La confiance se donne, on ne peut pas exiger qu'on nous l'accorde, comme nous exigeons de ne pas être déçus une fois qu'elle a été accordée. Donc, il faut être attentif aux termes utilisés par Zimmel. Donc, il y a bien une base rationnelle ou factuelle ou informationnelle ou de connaissance dans la confiance. Mais il y a dans la confiance un autre geste qui est un geste d'engagement, ce qu'il appelle le jugement porté sur quelqu'un en avance. Celui qui fait confiance s'engage en faveur du bénéficiaire de sa confiance à travers un jugement favorable qu'il porte sur lui par avance. Et précisément, celui qui bénéficie de la confiance est du coup incité à se montrer à la hauteur de la confiance faite. Et on a quelque chose là qui est de l'ordre du don, si on veut. Alors, on peut éclairer... Alors, effectivement, certains diront, mais ce type, disons, de définition de la confiance, est-ce que ça ne conduit pas à considérer la confiance comme quelque chose d'irrationnel? On n'est pas en train de frôler l'irrationalité dans ce geste-là. La réponse de Zimmel serait qu'une confiance entièrement rationalisée, donc où il y a une information complète, hein, une connaissance complète de l'autre, n'est plus une confiance, hein, au sens fort du terme, puisqu'il lui manque ce pas au-delà du savoir, au-delà de la certitude, au-delà de la connaissance, au-delà des garanties de toutes sortes qui caractérisent cette confiance fidèle. Alors on peut éclairer ce geste, cette définition que Zimmel donne à la confiance par des recherches contemporaines, et je pensais entre autres aux travaux d'un sociologue, philosophe allemand, Axel Honneth, sur la reconnaissance. Je vais simplement citer Honneth. Axel Honneth reprend une phrase célèbre de Kant dans « Fondement de la métaphysique des mœurs » où celui-ci parle du respect porté à quelqu'un. Et Kant dit que ce respect est la représentation d'une valeur qui porte préjudice à mon amour-propre. représentation d'une valeur, donc de la personne qui porte préjudice à mon amour-propre. Et honnête définit précisément la reconnaissance comme cet acte de décentrement par lequel quelqu'un va attribuer à un autre une valeur qui est la source d'exigences légitimes qui vont contrarier son amour-propre, c'est-à-dire aller à l'encontre de ses désirs immédiats ou de ses envies spontanées et vont lui imposer un certain nombre d'exigences. C'est, me semble-t-il, un décentrement de ce genre qui a lieu dans la confiance lorsqu'il comporte un aspect de foi en une personne. C'est-à-dire le crédit que nous accordons à cette personne est basé sur la valeur que nous lui reconnaissons, valeur ancrée dans sa personne, que nous traitons comme douée de certaines qualités, vertus et capacités. Et cette reconnaissance contrarie notre amour-propre, en ce sens qu'elle est source d'exigence pour nous, qu'elle impose des limites à la réalisation de nos envies spontanées et de nos inclinations. Donc c'est en ce sens-là, me semble-t-il, qu'on peut interpréter le jugement porté par avance sur la personne qu'évoquait Simmel. Ce jugement est plus qu'une évaluation de sa fiabilité, de la probabilité de sa loyauté. Il est une reconnaissance, c'est-à-dire à la fois l'attribution d'une valeur à cette personne, attribution qui est la source d'exigences légitimes, et qui est aussi un engagement en sa faveur dont résultent des obligations diverses, obligations que ne peut pas susciter une simple évaluation de fiabilité ou de probabilité de loyauté. Donc une telle reconnaissance va au-delà, là aussi, du savoir et de l'information disponible. Alors, j'avais relevé, je vais juste vous la présenter sans la commenter, un extrait de l'analyse faite par Benveniste, Émile Benveniste, grand linguiste français, dans le vocabulaire des institutions européennes, où il s'intéressait à l'histoire, si on veut, à l'évolution du sens de la fides, disons le mot latin correspondant à foi, si on veut, qui est le substantif, disons, qui correspond à credere. Et précisément, donc, ce qui met bien en évidence, c'est exactement la fides fait ce mouvement-là que je viens de décrire, donc d'attribution de valeur à quelqu'un d'autre, et cette attribution de valeur génère, disons, des exigences, mais génère des droits, génère des obligations. La fin de la citation, c'est que celui qui détient la fidesse, la foi, la confiance, mise en lui par un homme, tient cet homme à sa merci. Mettre sa fidesse en quelqu'un, procurer en retour sa garantie et son appui, ça c'est important. Mais cela souligne l'inégalité des conditions. C'est donc une autorité qui s'exerce en même temps qu'une protection sur celui qui s'y soumet en échange et dans la mesure de sa soumission. Donc vous voyez, le geste de la confiance est un geste assez complexe dans le fait de s'en remettre à autrui. On lui confère un pouvoir, si on veut, de décider ce qu'il convient de faire pour agir en notre faveur, mais en même temps on se met dans une situation de vulnérabilité à son égard, parce qu'il peut profiter, disons, de cette déférence, si on veut, de ce geste, pour nous nuire. Alors, précisément, c'est des aspects, et là je vais passer très vite, que Luhmann ensuite reprit dans son analyse de la confiance. Et en gros, ce qui l'intéresse Luhmann, c'est effectivement de montrer en quoi la confiance est un processus temporel. Il y a un geste de départ sur lequel vont s'enchaîner d'autres gestes. Et donc, c'est un processus qui se développe. Alors, ce qui est intéressant, donc l'important chez Luhmann, c'est effectivement de traiter ce processus comme étant un processus, disons, qui est doté de ses propres procédures de contrôle interne. Alors, on peut retenir deux aspects importants dans l'approche de Luhmann. Je ne présente pas en détail. Je vais juste vous présenter la citation que j'avais relevée, qui insiste sur cette situation de vulnérabilité, et que cette situation de vulnérabilité est précisément ce qui fait que la confiance est capable de générer de l'intérieur d'elle-même tout un ensemble de droits et d'obligations. Alors, les deux aspects importants et intéressants dans l'approche de Luhmann, le premier, c'est de dire que la confiance réduit la complexité. Voilà, c'est l'expression qu'il utilise. Et réduire la complexité, ça veut dire effectivement réduire l'incertitude du futur, entre autres. Hein. Réduit la complexité de l'environnement, réduit l'incertitude du futur, et fait partie de l'incertitude du futur, l'incertitude du comportement futur d'autrui qui est libre et dont on ne sait pas comment il va se comporter. Et précisément, donc, la confiance réduit cette complexité parce qu'à un moment donné, elle renonce à en savoir plus, c'est-à-dire à poursuivre la quête infinie d'une information, et à poursuivre la quête et à rechercher des garanties. Hein. Et donc, une fois qu'on dispose d'un certain nombre d'informations et de garanties, il y a un pas supplémentaire qui consiste à faire confiance, donc qui va au-delà de cette garantie. Et pour Simmel, précisément, donc là, il y a une rationalité, plutôt pour Luhmann, une rationalité particulière de la confiance, parce que précisément, on remplace, si on veut, la recherche d'informations et de garanties par une sorte d'assurance intérieure. La confiance, c'est une assurance intérieure donc qui est adoptée vis-à-vis de cette incertitude du monde et cette complexité du monde et cette incertitude du futur. Et précisément, dit Luhmann, c'est ce genre d'attitude qui rend possible toute une série d'actions que l'on ne pourrait pas faire si nous serions très vite paralysés par la complexité des choses et par l'incertitude du futur si nous n'adoptions pas ce genre d'attitude à son égard. Donc c'est par rapport à ce phénomène-là qu'il faut penser aussi la rationalité de la confiance. Et le deuxième aspect important dans l'approche de Luhmann, c'est son idée effectivement que la confiance rationnelle, est une confiance donc bien placée, mais c'est un processus qui est doté d'un dispositif de contrôle qui lui est interne et qui lui est immanent. Donc une confiance aveugle n'est pas une confiance raisonnée ou rationnelle. Pour que une confiance reste rationnelle, il faut effectivement qu'elle déploie ces processus de contrôle qui lui sont propres. Hein. Et donc, Luhmann identifie ces processus de contrôle sous deux mécanismes de contrôle. Il appelle l'un un contrôle symbolique, c'est-à-dire une fois un processus de confiance engagé, il va fournir un cadre pour percevoir et interpréter des événements. Hein. Ces événements vont être appréhendés sous l'angle de leur pertinence pour la relation de confiance existante et comme indice du degré de confiance accordée, comme indice de la loyauté du bénéficiaire de la confiance, comme indice de son souci d'honorer la confiance faite, etc. Et donc, c'est de tels indices qui vont servir à déterminer s'il est légitime ou pas de maintenir sa confiance ou qui va conduire à moduler le degré de confiance faite. Hein. Et Luhmann souligne que la confiance est relativement tolérante et capable d'absorber des informations et des expériences défavorables, et que celles-ci n'ébranlent pas nécessairement ou ne détruisent pas nécessairement la confiance. Cela n'est pas dû au fait que la confiance soit aveugle, mais au fait que son mode d'autocontrôle soit un contrôle, donc il y a un contrôle symbolique, mais aussi un contrôle par un seuil. Et le contrôle d'un processus social par un seuil est un type de contrôle très particulier. Le seuil est une frontière dont le franchissement transforme subitement une orientation en une autre, voire en son contraire, par exemple la confiance en méfiance, l'amour en haine, etc. En deçà du seuil, l'attitude prédominante est une large, disons, indifférence, une tolérance à l'égard de nombreux détails, des nuances subtiles de l'expérience. Et donc cette indifférence se traduit par une capacité importante d'absorber des incohérences, des expériences plutôt défavorables. Mais par contre, quand le seuil est franchi, ça provoque tout de suite des modifications importantes. Et donc, à ce moment-là, le doute surgit, et à ce moment-là, l'effet de ce doute va être surdimensionné et va aller bien au-delà de ce qui pourrait être attribué au phénomène concret qui a fait déborder le vase. Je vais devoir conclure, je crois. Là, j'ai abordé effectivement la question du contrôle, qui était mon quatrième point. C'est un point décisif, j'avais encore beaucoup plus de choses à dire, et entre autres sur la question de la méfiance et de la défiance, mais on reprendra éventuellement dans la discussion. Mais disons, voilà, ce que je peux dire, si on veut, c'est que cette... Voilà, en gros, j'ai pris pour interlocuteur Hardin, entre autres, et la théorie, issue du choix rationnel, en gros, bon, qui effectivement accentue le côté cognitif, le côté croyance de la confiance, et qui vont limiter... Donc la confiance strictement au domaine des relations interpersonnelles. Et dès qu'on sort du domaine des relations interpersonnelles, on a des formes atténuées de confiance. Et donc, Hardin va dire, du coup, on ne peut pas parler de confiance dans le gouvernement, par exemple, on ne peut pas parler de confiance dans les institutions, parce que précisément, je ne connais pas personnellement les gouvernants ou les agents des institutions. Donc je ne peux pas former un savoir, je ne peux pas recueillir des informations sur eux suffisamment précises pour former ma croyance qu'ils vont être fiables, etc. Et donc, il ne faut pas parler de confiance dans le gouvernement. Et donc, en gros, là, lorsqu'on parle de confiance dans le gouvernement, dans les agents des institutions, c'est en gros du même ordre que la confiance, disons, du paysan qui va croire que s'il sème, ça va pousser comme ça a poussé les années précédentes. Je pense qu'effectivement, ce genre, disons, de réaction et ce genre d'analyse passe à côté, me semble-t-il, du geste, disons, que je viens d'essayer de décrire à l'aide de Zimmel et de Luhmann, qui est propre à la confiance, mais qui ne me paraît pas un geste limité au domaine des relations interpersonnelles, puisqu'effectivement, ce geste qui consiste, disons, à s'en remettre à autrui, et donc à lui conférer ce que certains appellent un pouvoir discrétionnaire, c'est-à-dire le pouvoir de décider ce qu'il convient de faire pour servir au mieux mes intérêts. Effectivement, je me mets dans une situation de dépendance et dans une situation de vulnérabilité à son égard, parce qu'il peut me nuire. Mais en même temps, ce geste de délégation, de décentrement, crée aussi d'énormes possibilités qui n'existeraient pas, et entre autres, qui n'existent pas lorsque, par exemple, la défiance ou la suspicion... prédomine, parce que lorsque la défiance ou la suspicion prédomine, on est engagé dans une spirale de quête d'information, de certitude, de garantie qui épuise en fait, voilà, et qui du coup empêche d'agir. Voilà. Et donc du coup, effectivement, si ce geste-là est propre à la confiance, je ne vois pas pourquoi on ne peut pas le faire vis-à-vis d'autres entités que les personnes humaines. Et ce fait, me semble-t-il, quand même, ce geste de délégation est précisément, mais ça on en discutera avec Pierre Rosemblin, au cœur de la démocratie représentative. Mais alors, donc, tout le problème, c'est précisément d'organiser cet autocontrôle interne au processus de la confiance, et donc de lui trouver des formes qui lui permettent de s'exercer. Voilà.